Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. J'ai dévoré le livre de mon invité du jour bien après avoir donné naissance à ma fille, sans chercher quoi que ce soit, juste parce que j'aimais son travail. Et quelle claque ! Lucille Gomez est autrice et illustratrice de bande dessinée. Depuis la naissance de son premier enfant, elle s'intéresse de très près à la physiologie de l'accouchement, au point d'en faire une BD, enfin plutôt une véritable bible en plusieurs tomes sur le sujet. Le premier s'intitule « La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs ». Et c'est exactement le sujet de l'épisode que je vous propose aujourd'hui. Avec Lucille, on évoque son parcours personnel, ce qui l'a mené sur le chemin de la maternité, avant d'entrer dans le vif du sujet. Cet épisode, je le recommande vivement à toutes les femmes enceintes qui veulent préparer la naissance de leur enfant, aux femmes qui n'ont toujours pas compris pourquoi leur accouchement leur avait échappé, aux professionnels de santé qui voudraient se détacher des statistiques pour se recentrer sur leurs patientes, bref, à toutes les personnes qui ont un lien privilégié avec la grossesse, qui ont la chance de la vivre ou de l'accompagner. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Lucille, bienvenue sur Prenons un café. Je suis vraiment ravie de te recevoir pour ce que je te disais en off, pour avoir dévoré ton livre sur la naissance au naturel. Je suis vraiment, vraiment contente qu'on puisse parler de ce sujet-là puisque tu le maîtrises vraiment très, très bien aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, nous te présenter, nous dire un peu qui tu es, d'où tu nous parles et ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je m'appelle Lucille, je viens d'avoir 40 ans, je suis autrice de bande dessinée, donc illustratrice, je fais les dessins et les scénarios, les couleurs. Je suis aussi maman de deux enfants, deux garçons, l'un de 7 ans et l'autre de 2 ans et demi.
Je vais te poser la traditionnelle question de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours su que tu serais maman un jour ?
Et sincèrement, je me posais pas la question pendant très longtemps. Enfant, je me souviens pas du tout de m'être projetée comme maman plus tard, d'autant moins que je m'identifiais plutôt à des jeux de garçons. Moi, je projetais d'être exploratrice, dessinatrice de BD, je jouais aux pirates, je me prenais pour Tom Sawyer, c'était le personnage auquel je m'identifiais, donc Tom Sawyer n'est pas maman, hein. Je jouais pas à la poupée, j'ai pas de poupée, donc j'étais pas vraiment dans cette idée enfant. Et ensuite à l'adolescence, je me suis pas vraiment posé la question. J'ai commencé à me poser la question à vrai dire quand j'ai approché la trentaine, que j'étais célibataire, et comme je pense que confusément, même si je m'étais jamais projetée à, vraiment de manière très claire avec des enfants plus tard, confusément, j'avais quand même l'idée qu'un jour j'aurais des enfants, sans doute, sans m'être vraiment posé la question, je pense parce que c'est comme ça qu'on fait, peut-être, mais en tout cas, je m'étais jamais posé vraiment la question. Et donc là, je me la suis posée, j'avais presque 30 ans, j'étais célibataire, j'ai un métier quand même qui est pas très sécurisant, hein. De bande dessinée, c'est pas le truc le moins précaire qui existe. Donc, je me disais, bon, alors voyons comment ça se passera dans ta vie si éventuellement tu te retrouves dans la situation où tu n'as pas d'enfant. Est-ce que tu en seras malheureuse ou pas malheureuse ? Est-ce que, voilà, est-ce que tu serais dans des démarches d'avoir des enfants toute seule ? Enfin, voilà, je m'étais vraiment posé toutes les questions. Je me suis fait un rendez-vous avec moi-même et j'en étais venue à la conclusion que je préférais. C'est très, très, très personnel, quoi, et ça aurait pu peut-être même évoluer. Ouais. J'en sais rien du tout. Mais à l'époque, je m'étais dit non, je préférais avoir une vie sans enfant plutôt que d'en faire à tout prix seule, etc. Mais encore une fois, je ne peux pas savoir ce que j'aurais pensé si je m'étais retrouvée vraiment dans le cas de figure. Mais voilà.
Et donc, du coup, là, tes enfants ont été vraiment réfléchis comme un projet de couple et pas comme un désir vraiment à toute épreuve.
Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que j'avais quand même senti que quand j'étais en couple avec quelqu'un qui voulait très clairement n'en voulait pas, ça piquait un peu. Ça m'était arrivé qu'une seule fois en fait, mais je m'étais dit tiens, ça pique un peu parce que c'était très prématuré dans la relation et de toute façon la relation n'a pas duré, hein, mais je me souviens que...
Ouais, ça t'embêtait.
Voilà, et c'était pour ça que je m'étais dit, après que j'avais pris ce rendez-vous avec moi-même et que je m'étais vraiment posé la question à la fin de cette histoire, voyons, est-ce que c'est un objectif dans ma vie, est-ce que c'est une priorité pour moi de fonder une famille ou pas, etc. Et quand j'ai rencontré mon compagnon, lui, il est un peu plus âgé que moi, et très vite dans la relation, il m'a dit, je veux des enfants. Je veux des enfants avec toi, je veux des enfants avec toi, etc. Et au début, je me disais, wow, il est fou, lui, il va trop vite. Puis après, je me suis rendu compte que moi-même, j'étais pas si jeune que ça. Et à l'époque, je me suis dit, en fait, j'en ai envie avec lui, ça fait complètement sens, il en a envie aussi, et je pense que c'est vraiment le genre de chose, si j'y réfléchis trop, je vais pas le faire. Donc...
Carrément.
Donc voilà.
Et alors, du coup, vous êtes lancée dans l'aventure. Comment tu l'as vécu, ta première grossesse? Est-ce que tu t'es informée vraiment sur tout ce qu'il y avait autour de la naissance, autour de la grossesse, ou alors t'as suivi le flow?
Alors, j'ai vraiment suivi le flow avec une curiosité quand même qui m'est propre en général. Quand je traverse quelque chose, j'ai tendance à y aller à fond, quoi, à aimer l'expérience, quoi, donc en tant que telle. Donc après, il faut remettre dans le contexte, et c'était génial, hein, ça faisait pas très longtemps qu'on était avec mon compagnon, certes, mais ça faisait quand même un an, je tombe enceinte tout de suite, donc beaucoup de chance, on habitait à ce moment-là au bord de l'océan, j'ai du boulot qui me passionne, je fais des longues marches au bord de l'océan, enfin, c'était franchement...
Le cadre idyllique, quoi.
Ouais, c'était un très très bon souvenir, très très bon souvenir. Il se trouve qu'autour de moi, j'avais pas d'amis proches, parce que je venais d'arriver au Pays Basque, et que même mes amis proches ne sont pas mamans, en fait.
Ouais.
À ce moment-là. Et donc, vraiment, j'ai pas d'a priori sur ce qu'est une grossesse. J'ai pas trop de retours, en fait, sur ce qu'est un accouchement, etc. J'ai pas cette expérience-là du tout. La seule chose qui est un déclencheur chez moi, c'est un couple qui vient dîner chez nous et qui nous raconte la naissance de leur petite fille. Et donc, moi, j'avais une idée très... mainstream, on va dire, très classique en France aujourd'hui de ce qu'est l'accouchement, c'est-à-dire je vais prendre rendez-vous chez mon gynécologue, je vais aller à la clinique la plus proche, à l'hôpital le plus proche. Enfin voilà, c'est un peu confus, mais bon voilà, et puis je vais accoucher, ah, ça va peut-être être un peu
désagréable. Ça va piquer un peu.
Bon, pour l'instant, j'y ai pas encore trop pensé, mais c'est pas la meilleure partie du délire. Et voilà. Et eux, ils me racontent la naissance. Enfin, lui raconte la naissance à laquelle il a assisté du coup de leur fille. Et elle a acquiescé à côté avec son bébé dans les bras et tout. Et c'était super joli. C'était pas du tout comme j'imaginais. Donc dans une pièce complètement démédicalisée avec une petite lumière et tout ça. Ça m'a tellement intriguée cette histoire. J'ai dit à mon compagnon, non mais faut que j'en sache plus. Faut que je sache plus quoi. Ouais. Donc ils avaient accouché dans un hôpital. Dans une structure hospitalière, mais à l'intérieur d'une salle où il n'y a aucun équipement médical, et avec une sage-femme formée à la physiologie qui était là vraiment pour suivre l'accouchement. Et ça s'appelle un plateau technique. Donc pour les gens qui, comme moi, ne connaissent rien à l'accouchement, c'est qui pourraient avoir des appréhensions, je sais pas moi, pour un accouchement à domicile, quoi, parce que c'est très éloigné de leur culture familiale ou amicale, de leur sphère, quoi, ce qui est très clair. C'est hyper rassurant, en fait, parce qu'on se dit, j'ai une sage-femme rien que pour moi. Et puis, je suis dans un endroit qui est très rassurant, parce que c'est une chambre, en fait, comme ce serait à l'hôtel. Ou, enfin, voilà. Et en revanche, si quelque chose se tourne mal, il n'y a que le couloir à traverser. Et là, on retrouve un bloc classique, etc. Donc, ouais. Sauf qu'à l'époque, c'était moins clair que ça dans ma tête. Donc je voulais juste rencontrer cette sage-femme. qui avait accès à ce plateau technique. Je voulais la rencontrer. C'est un personnage aussi au Pays Basque. Il s'est trouvé que j'ai appris qu'elle avait été là pour l'accouchement de plusieurs femmes que je connaissais pas bien parce que je venais d'arriver au Pays Basque encore une fois, mais qui étaient pas loin de moi, en fait, dans le genre de milieu socio-culturel, quoi. Enfin, je veux dire, des filles avec qui j'aurais très bien pu être amie. Et du coup, j'ai cherché à la rencontrer et mon compagnon était un peu mitigé. Quand même cette idée que l'accouchement non médicalisé, donc on dit accouchement naturel, on dit, ben voilà, il y en avait qui avaient accouché dans l'eau du coup, etc. C'est un peu...
Ça semblait peut-être un peu perché.
Ouais, pour lui, il avait très peur de tomber sur une hippie, c'est un peu loin de son univers à lui. Encore moi, je pouvais encore avoir des atomes crochés avec ce genre de délire, mais lui, alors pas du tout. Et puis bon, Et en fait, dès qu'on l'a rencontrée, on s'est entendu tout de suite hyper bien avec elle. Et donc, je suis partie sur cet accompagnement-là.
C'était à quel stade de ta grossesse à ce moment-là?
C'est une bonne question, parce que j'avais une gynéco que j'aimais beaucoup aussi, donc à Saint-Jean-de-Luz, qui m'aurait réorientée, elle, vers un parcours pour l'hôpital de Bayonne, hein, je pense. Mais mon premier,
plus classique.
Voilà. Mais mes premiers, je pense que ma première échographie m'a été prescrite, la prise de sang et tout m'a été prescrite par cette gynécologue. Et je sais qu'au moment où j'ai cherché à contacter la sage-femme, c'était l'été, parce qu'elle prend très peu de vacances et c'était ses vacances, donc c'était au mois d'août. Et que j'ai enfin obtenu un rendez-vous pour moi, c'était enfin, parce que j'avais harcelé son répondeur téléphonique pendant le mois d'août. Parce qu'elles sont très sollicitées, les sages-femmes qui font ça. C'est vrai que déjà, il faut attraper l'information au vol. Ensuite, il faut...
Généralement, quand tu as ce genre d'information, tu es déjà enceinte assez avancée parce que tu te renseignes petit à petit. Donc, c'est vrai que c'est compliqué.
Ouais, mais c'est là que j'ai eu de la chance, en fait, que d'avoir ce témoignage qui a titillé ma curiosité assez tôt. Enfin,
ouais.
Parce que du coup, je l'ai vu en septembre. Et donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, je commençais mon sixième mois, je pense, de grossesse.
Ouais, quand même, tu t'es pas mal avancée.
Ouais, j'étais pas mal avancée. J'étais pas mal avancée, mais il se trouve que les cours de préparation à la naissance sont en général plutôt sur la fin de la grossesse.
Ouais. Donc, ouais, c'est vrai. Mais c'est hyper rare, tu vois, j'ai l'impression, à force d'écouter pas mal de témoignages comme ça, que dans le sud-ouest de la France, c'est vachement plus courant qu'ailleurs en France d'avoir ce type de... Enfin, t'as plus de sages-femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile, par exemple, enfin, qui accompagnent les accouchements à domicile. T'as plus de... peut-être de maisons de naissance et de plateaux techniques. Ou alors, c'est peut-être juste qu'il y a que les personnes qui habitent dans le sud-ouest qui témoignent, je sais pas.
Je pense qu'il y a une légère déformation parce qu'il y a... Il y a plusieurs personnes charismatiques qui en parlent ici. Donc, enfin, Clémentine Sarlat avec la matrescence, il y a Laura Boyle avec, qui est photographe, qui photographie en général ce genre de voilà. Enfin, il y a plusieurs personnes en effet du Sud-Ouest qui sont assez charismatiques et qui en ont parlé. Mais je, en vérité, ici au Pays Basque pour accouchement à domicile. Donc au Pays Basque, même Béarn, accouchement à domicile. Depuis 2013, il y avait personne. Quand moi j'ai accouché de mon deuxième enfant, j'ai cherché avant pour ma grossesse mon deuxième enfant. C'était en 2017, il y avait personne. Il y a depuis une personne qui s'est installée. Maintenant, elle est accompagnée, donc elles sont deux. Donc en fait, au Pays Basque, c'est quand même très compliqué. Et puis quand on dit, peut-être tu dis Sud-Ouest, mais bon, entre Laura Boyle, elle est dans les Landes. Et Clémentine Sarlat, elle est à Bordeaux. Bon, moi, si je dois aller accoucher à Bordeaux, c'est quand même compliqué.
Ouais, c'est ça. Je me rends peut-être pas bien compte parce que tu vois, moi, ma contrée, ce sont les Hauts-de-France.
Ouais.
Non, mais du coup, voilà.
En fait, je peux comprendre qu'il y ait cette image-là parce qu'en effet, il y a plusieurs personnes ici qui en ont parlé, mais en vérité, elles sont rares.
Ouais.
Elles sont rares
partout.
Et tu sais pourquoi?
Parce que oui, c'est interdit. Enfin, elles pourraient perdre leur droit d'exercer, les sages-femmes, en cas de problème. Enfin, puis l'assurance est hyper chère. Leur assurance est hyper chère, ouais.
C'est ça. Et en fait, il y a vraiment des reliquats de chasse aux sorcières en France. C'est-à-dire qu'on ne veut pas admettre que les sages-femmes puissent avoir un savoir-faire qui leur est propre. Et que ça n'est pas... On a vraiment des croyances très, très ancrées de peur sur l'accouchement. Ce qui fait que c'est très compliqué pour une sage-femme d'exercer pour faire des accouchements à domicile. Et donc, ça nourrit la peur, puisque c'est pas possible, puisque c'est pas permis, c'est dangereux.
En même temps, quand tu... en tout cas, moi, le souvenir que j'en ai de moi... Moi, j'ai accouché en 2017 aussi. Quand je suis tombée enceinte, moi, tous les discours que j'entendais sur l'accouchement, c'était quelque chose d'horrible, de très douloureux, que la péridurale... D'ailleurs, je le disais même, moi, je disais en gros que je serais éternellement reconnaissante en la personne qui a inventé la péridurale. Parce que pour moi, je voyais pas l'intérêt de souffrir, en fait. Je voyais pas où était le sens de ça. Si on a inventé quelque chose pour pas avoir mal, pourquoi l'avoir mal? Résultat, j'ai un accouchement qui a quand même duré 36 heures. Et c'est pas anodin. Je me dis que si ça s'était passé autrement, si j'avais eu les informations à ce moment-là, ça aurait pas duré autant de temps. Et au début, j'étais très contente de mon accouchement. Et c'est en lisant justement en plus ton livre que je me suis dit, mais en fait, pas du tout. C'est pas du tout comme ça que ça aurait dû se passer. Et en soi, je l'ai bien vécu. Ça n'a pas déclenché de traumatisme ou quoi que ce soit. Mais je me dis qu'il y a eu des problèmes physiques après qui auraient pu être évités, en fait, si j'avais eu les informations, si j'avais accouché de manière plus physiologique. Mais parce qu'on véhicule ces idées reçues de « on va nous aider à le faire » et en gros, on n'est pas tellement capable de le faire toute seule, quoi.
Exactement, je ne peux pas dire mieux. En fait, c'est très, 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 très compliqué. Disons que c'est multifactoriel, ce qui fait qu'on en arrive là à penser que on n'en est pas capable, et merci la péridurale, parce que moi c'est un peu ce que je pensais. Je veux dire, je n'aime pas souffrir, hein. Je suis absolument contre l'idée qu'on laisse une femme en souffrance. Ce qui me choque, c'est que on croit que la péridurale va nous épargner toutes les souffrances. Du coup, tout le côté accompagnement vraiment de la femme enceinte et de la naissance, et même de la famille, hein, du compagnon, de la compagne, enfin voilà, c'est vraiment mis de côté. On s'en remet complètement aux équipes médicales. Or, la péridurale ne fonctionne pas à tous les coups. La péridurale n'est pas utilisée, à mon sens, de manière vraiment bienveillante, en fait. C'est pas le fait de telle sage-femme, de telle gynécologue, encore qu'il y en a certains qui sont vraiment bouchés, mais c'est le fait surtout du système dans lequel on est arrivé, c'est-à-dire qu'une péridurale qui vient soulager une souffrance, heureusement qu'elle existe, et merci la péridurale, mais une péridurale qui est utilisée comme elle l'est aujourd'hui, en général, de manière systématique, pour gérer des naissances dans des établissements très grands où les sages-femmes sont surmenées, exsangues, juste parce qu'il faut pouvoir se rendre disponible, et en gros, vraiment, c'est de la gestion.
Mais c'est ça, c'est systématisé, c'est vraiment le mot, en fait. Elle est très utile pour des cas particuliers d'accouchement qui tourneraient mal ou qui pourraient être dangereux pour le bébé ou pour la maman, et là, il y aurait besoin d'une intervention, mais finalement, t'en parles, je crois, dans ton livre, c'est le pourcentage, c'est quoi, des accouchements qui se passent bien versus ceux qui ont besoin d'une intervention médicale?
Alors, le problème, ce qu'il y a, c'est qu'on intervient tellement dans les accouchements qu'on peut pas savoir ce que ce serait si on n'intervenait pas. Enfin, c'est-à-dire qu'on fait des touchés vaginaux, et ça, déjà, rien que ça, ça perturbe, c'est une intervention hyper intrusive qui perturbe le processus de l'accouchement physiologique, en fait. Donc, je sais, c'est que le taux de péridurale en France est énorme, c'est plus de 80%. Et que c'est pas du tout le cas. Et en plus, c'est la seule façon de soulager la douleur qu'on propose. En fait, on ne nous apprend pas d'autres choses. Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres façons de soulager la douleur. La péridurale, c'est quand même vraiment l'artillerie lourde, quoi. C'est que très invasif, et ça déclenche tout un tas de conséquences qui, à terme, sont peut-être plus de souffrance pour la maman. C'est-à-dire qu'elle se dit « Heureusement que c'était médicalisé parce que j'ai failli crever d'une hémorragie de la délivrance. » Or, quand on fait une péridurale, qu'on est immobilisé, qu'on ne peut plus bouger, qu'il y a moins d'ocytocine naturelle, du coup on met de l'ocytocine de synthèse, enfin, tout ça déclenche tout un tas, on est obligé de tout réajuster sans arrêt avec des tas d'interventions qui font que, ben, au final, s'il y a une hémorragie de la délivrance, elle est vraiment majorée par l'utilisation de l'ocytocine de synthèse, le syntocinon, etc., sont de l'ocytocine de synthèse qu'on met pour accélérer le processus de naissance, les contractions, etc. Et en fait, ça majore les problèmes d'hémorragie de la délivrance. C'est-à-dire que là où on aurait perdu du sang, et ben là, ça coule à flot, quoi. Et faut être vraiment dans l'urgence pour sauver la vie de la mère. Et donc, la maman se dit, la médecine a sauvé ma vie. Et c'est vrai. Mais c'est aussi les interventions médicales qui ont fait que c'est devenu vital d'être présent de manière urgente. Alors que quand on est avec une sage-femme qui n'est pas occupée avec plusieurs accouchements en même temps, qui est complètement dédiée à votre naissance, elle a plein de signes avant-coureurs avant que ce soit urgent d'intervenir. Elle est là, complètement présente, discrètement. Elle n'intervient pratiquement pas, mais elle est là. Et c'est une vraie différence. C'est ça qu'on a du mal à déconstruire, parce qu'en effet, moi, je peux comprendre, en fait, une maman qui vient me voir et qui me dit « Ah non, mais moi, ce livre, l'accouchement naturel, je peux pas que ce soit épidermique. Je veux pas en entendre parler, j'ai failli mourir, c'était horrible, heureusement que j'étais entourée, etc. » Parce que c'est tellement traumatisant ce qu'on vit parfois, dans les hôpitaux, le jour d'une naissance, etc., que je comprends que ça soit douloureux même de se dire « Ah, mais en fait, tout ça, je l'ai vécu pour rien. Ça aurait pu être évité, en fait. »
Mais c'est difficile, hein, de s'en rendre compte, parce que pour le coup, moi, j'ai mis du temps à m'en remettre, de me rendre compte que ce que j'avais vécu, c'était pas... En soi, ça s'était bien passé, j'en étais contente sur le moment, mais je me rends compte parce que tu vois, moi aussi, j'ai fait une hémorragie de la délivrance et je suis sûre que j'en aurais pas fait, en fait, si j'avais pas été allongée pendant ces 12 heures, si on m'avait pas mis d'ocytocine, si tout ça n'avait pas été, et en plus, tout a été forcé, à mon sens. Et en fait, le fait de me rendre compte que tout ça, c'était pas spécialement normal, de me rendre compte que ça aurait pu se passer autrement, ça a été hyper difficile à accepter. De me dire, mais en fait, c'est un peu de ma faute, je suis pas allée chercher les informations. Le fait de redescendre et dire ah oui en fait donc j'ai pas du tout été actrice de mon accouchement, ça aurait pu se passer de telle façon, de telle façon, de telle façon. Mon conjoint aurait pu être impliqué dans cet accouchement et pas être assis sur une chaise pendant tout ce temps. Enfin je veux dire tout ça, l'accepter c'est pas si évident.
Ah mais je comprends que ce soit hyper douloureux parce qu'en plus comme tu me disais c'est quand même pas un événement qui nous arrive tous les jours d'accoucher donc. C'est en me rendant compte que j'avais eu énormément de chance, moi, d'avoir eu accès à ces informations et à cet accompagnement, que j'ai eu envie de faire le livre, parce que avant d'en parler avec des amis autour de moi, parce que par la suite, après mon accouchement, j'ai plusieurs copines qui ont accouché, ou des gens qui avaient accouché avant qui m'ont parlé de leurs accouchements, et c'est là que j'ai réalisé le décalage, c'est-à-dire que c'est exactement ce que tu dis, même quand elles avaient l'impression que ça s'était bien passé, puisqu'on vous dit... Ça s'est bien passé, parce que parfois, du point de vue de l'équipe médicale, tout s'est bien passé, en fait. À partir du moment où on n'est pas mort, c'est que ça s'est bien
passé.
C'est
ça. Mais c'est ça. Alors qu'en fait, le moment peut être aussi génial. Enfin, je veux dire, moi, je me suis amusée avec les sages-femmes, on a rigolé, tu vois, il y a un bon souvenir derrière. Mais physiologiquement, non.
Oui, voilà. Après, voilà. Et bon, moi, il y avait des choses où elles n'avaient pas rigolé avec les sages-femmes, il y avait des choses qui étaient vraiment très, très douloureuses.
Hein, oui, voilà.
Pour qui ça reste un souvenir. Quoi. Et même quand ça ne l'est pas, je me souviens une copine avec qui je faisais un footing qui avait le périnée foutu quoi en fait. Elle pouvait pas, elle me disait bah, je peux plus faire de footing en fait. Elle avait à peine 30 ans. Et ça, après quand elle m'a raconté son accouchement, j'ai très bien compris pourquoi en fait. Et on a l'impression que c'est, en fait, c'est très difficile de tout déconstruire et de voir quel est le vrai, du faux, du ressenti, de l'émotionnel, soit de son biais cognitif. C'est pour ça que moi, entre le moment où j'ai accouché de mon premier enfant, et je pensais pas en faire un livre, le moment où j'ai signé pour faire un livre, et mon livre, effectivement, il y a eu beaucoup d'années. Parce qu'au début, j'avais l'impression que ça y est, je savais. En fait, j'avais compris. Puisque je l'avais vécu moi, et que je voyais ce que les copines avaient vécu. Puis ensuite, en se renseignant sur les choses, on n'a pas envie de dire n'importe quoi quand même. Et donc là, il faut vraiment aller chercher les infos. Et les infos, elles sont là, quoi. C'est juste que ça paraît aberrant de se dire, mais on sait ça, c'est une science, la physiologie, la naissance. C'est des connaissances qui existent. Enfin, je veux dire, c'est pas moi qui ai fait des expériences et qui ai fait des statistiques et des études. Enfin, c'est pourquoi c'est pas appliqué dans les maternités. C'est vraiment un truc qui est hyper perturbant pour moi. Enfin, c'est de me dire, parce qu'il y a des choses qui coûteraient pas plus cher.
Il y a des choses... Ah ben non, il n'y a pas les traitements médicaux et tout ça déjà, donc forcément ça coûte moins cher.
Oui, et puis tu vois, tamiser la lumière, ça aide à faire venir les hormones bénéfiques et c'est pas fait dans les maternités. Et quand on commence à s'intéresser au sujet, ça rend fou en fait. Il y a vraiment, au-delà de la connaissance de chacun, et de toi tu dis c'est ma faute, je ne suis pas allée chercher, parce qu'on a tendance beaucoup les femmes à se mettre à être culpabilisées, et donc à culpabiliser, enfin, c'est un ensemble, très vite on se dit c'est ma faute quoi. On devrait être le truc Instagram parfait, être la mère parfaite, la femme parfaite, avoir tout su, enfin voilà. Et alors qu'en vérité c'est tout un système qui nous amène là. C'est un système capitaliste, patriarcal, qui met en premier lieu la gestion économique, avant l'humain. Enfin, je veux dire, les sages-femmes elles-mêmes ne sont pas forcément formées à la physiologie, mais elles sont maltraitées aussi dans leur métier. Donc, c'est... Ouais.
Bah oui, non mais complètement. Et parce que c'est ça, enfin, ce que j'ai apprécié particulièrement dans ton livre, c'est que c'est hyper documenté. C'est très précis. Est-ce que quand toi tu as accouché, les faits comme ça, tu les avais en tête, genre l'ocytocine, les hormones, tout ça, tu l'avais en tête, ou alors tu es allée chercher vraiment après?
Alors il y a des choses que j'avais comprises avec la préparation à la naissance de mon premier enfant, hein, puisque ma sage-femme est super. Le livre lui est dédicacé d'ailleurs. Enfin lui. Ma sage-femme est quelqu'un qui sait transmettre, quoi. Ça, c'est une évidence, quoi. Elle rend très accessible les infos et puis elle a un côté hyper rassurant, parce que là, tout ce que j'ai raconté, c'est un peu inquiétant, mais en fait, il suffit d'avoir quelques infos clés pour déjà mettre beaucoup plus... Parce qu'on dit, ah, mais toi, ça s'est bien passé, t'as eu de la chance. On a vraiment cette croyance qu'une femme pour qui ça s'est bien passé, qui a pu accoucher chez elle et tout, c'est qu'elle a eu de la chance. Oui, peut-être. Moi, je dirais plutôt que celles qui ont des grossesses pathologiques n'ont pas de chance. En vérité, il y a très peu de grossesses pathologiques, vraiment. Il y a 10% à peu près de naissance. Donc, il reste 90% de femmes pour qui ça pourrait se passer de manière beaucoup plus... Donc, il y avait ces cours de préparation à la naissance. Et pas très longtemps après la naissance de mon premier enfant, la maternité dans laquelle j'ai accouché, qui était une toute petite structure, donc avec ce plateau technique accessible pour l'accompagnement global, a été menacée de fermeture. Ça m'a scandalisée. Donc, moi, j'avais un bébé et je commençais à ouvrir la boîte de Pandore, en fait, à comprendre comment ça se passait dans les autres maternités et tout. Ça m'a scandalisée qu'on enlève ce choix possible aux femmes, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement global, qui était déjà compliqué, parce que moi, il avait quand même fallu que je fasse une heure de voiture de chez moi pour aller accoucher. C'était pas du tout pratique, hein. C'était déjà un choix compliqué, et là, c'était carrément un choix impossible. Ça n'existait plus. On n'avait plus de choix, d'autre choix que d'accoucher. Donc ça m'a scandalisé qu'on veuille fermer cette maternité. J'ai commencé à faire des notes de blog pour dire « s'il vous plaît, venez signer une pétition, aidez-nous à faire en sorte que cette structure existe et tout », où je mettais les bases de ce que j'avais compris. C'est-à-dire qu'on nous fait accoucher en position gynécologique immobile et que en gros, c'est la position que moi j'avais apprise en cours de préparation à la naissance comme étant celle qu'on doit prendre quand on veut ralentir le travail et l'accouchement. Quand l'accouchement semble aller trop vite, on m'avait dit, tu te mets sur le dos, les jambes repliées en l'air. Ça ralentit l'accouchement. Et donc, moi, ce que j'avais compris, c'est que, naissance et la physiologie est aidée pour tout simplement aider le bébé à sortir. En gros, il faut se servir du mouvement et de la gravité. Or, quand on est allongé sur le dos, c'est pas très compliqué de comprendre que le bébé, il a plus de mal à descendre, en fait.
Et puis il doit remonter surtout à un moment.
Il doit remonter parce qu'en plus, les os de la maman, le bassin est fait de façon qu'il y a le sacrum sur lequel on est assis. Et en fait, le mouvement, tout simplement, c'est comme une porte qui s'ouvre. Hein. Le bassin a une ouverture plus ou moins grande et plus ou moins adaptée en fonction de la position qu'on prend, quoi. On a compris que pour faire la vidange d'une voiture, il fallait pas mettre la voiture là. Et pour les femmes, on traite mieux les bagnoles que les femmes, quoi, je veux dire.
Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai parce que les garagistes, les mécaniciens n'ont pas de mal à aller en dessous de la voiture et ils ont fait un système pour faire monter la voiture qui pèse quand même plusieurs tonnes. Quand même. Et c'est quand même, voilà. Nous, on pèse pas plusieurs tonnes.
Oui, même malgré l'impression qu'on a quand on est en fin de grossesse.
À ce moment-là, certes, mais dans les faits, non.
Mais c'est vrai qu'on verrait pas les gynécologues s'allonger sur un petit plateau à roulettes pour aller regarder entre les jambes d'une maman qui serait accroupie, alors que ma sage-femme, c'est clairement ce qu'elle faisait. Ma sage-femme en accouchement, on est dans la pénombre, elle a une lampe frontale, et elle fait tout pour pas être remarquée, donc elle surveille, voilà. Étant la plus discrète possible. Et donc, suite à ça, donc je racontais ce que j'avais compris. Et après, suite à ça, j'ai eu des propositions d'éditeurs pour faire un livre. Plusieurs propositions, plusieurs éditeurs. Et là, je me suis dit, attends, oulala, avant d'en faire un livre, il faut quand même que je sois bien sûre de ce que je raconte. Et j'ai commencé donc à faire... j'ai fait deux autres sessions de cours de préparation à la naissance. Auprès de sages-femmes différentes. J'ai posé des questions à ma sage-femme, la première que j'avais eue, parce que pour mon deuxième enfant, ça a été une autre sage-femme. J'ai aussi vu des formations en ligne d'autres sages-femmes. J'ai lu tout Michel Audan. J'ai lu tous les livres sur la grossesse et l'accouchement qui me sont passés sous la main. Or, il y en a beaucoup qui se font juste le relais de ce qu'on nous dit de manière lambda dans les rendez-vous gynéco. Hein. Beaucoup de livres qui sont sympas parce qu'ils sont une jolie maquette ou qu'ils ont des chouettes illustrations, mais on n'apprend pas grand-chose de plus. En revanche, dans les livres de Michel Audan, qui est quand même une sommité dans le monde de la naissance, hein, qui est un vieux monsieur maintenant, il y a plein d'infos, quoi, enfin, je veux dire. Et après, j'ai lu aussi des livres sur... j'ai lu Marie-Hélène Lai, son blog et son livre sur les violences obstétricales. Et puis des livres aussi plus d'histoire et de sociologie, plus politique en fait, sur l'accouchement, comment le corps des femmes a été étudié par la médecine. Il faut comprendre aussi que c'est une médecine d'hommes où les femmes étaient écartées de la médecine. Les femmes qui avaient le savoir sur la physiologie, c'était sages-femmes, à qui on a clairement mis des bâtons dans les roues, c'est vraiment peu de le dire en fait, qu'on a vraiment persécuté, quoi. Qu'on a remplacé par des matrones, avec des idées religieuses très... avec le corps qui est très tabou, où on dissocie vraiment l'esprit et le corps. Et tout ça, si tu veux, l'ambiance religieuse, culturelle, patriarcale, les effets de pouvoir, de domination... Enfin, tout ça, ça influe vachement sur pourquoi on en est arrivé là. Après, dans mon livre, la difficulté, c'est de choisir ce que je vais transmettre. Tu vois, c'est-à-dire que j'adore le travail de Marie-Hélène Lai, mais j'ai envie de parler à une copine qui va accoucher.
T'es pas dans la revendication.
Voilà, je vois bien qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. J'espère que ça va évoluer. Je vais tout faire dans le sens pour que ça évolue. Mais je veux pouvoir apporter les outils pour être rassurée le jour où on va accoucher et accoucher dans les meilleures conditions possibles. Et pour avoir le choix, en fait. Parce que je crois que quelle que soit l'issue d'un accouchement, quand on a compris ce qui se passait et quand on a été maîtresse des décisions qui ont été prises, on le vit mieux. Et dès le départ, moi, je comprends très bien une femme qui va avoir des réticences à, je sais pas, à accoucher chez elle ou même qu'on veut prendre une péridurale. Par exemple, je trouve dommage de se priver, sous prétexte qu'on veut une péridurale, de se priver des infos qui font que bah, si elle ne fonctionne pas, si je ne sais pas quoi, on a d'autres outils pour soulager sa douleur, par exemple.
Mais en fait, on a tellement donné cette image de l'accouchement comme étant un danger mortel, alors que statistiquement, enfin, il y a quand même peu de femmes qui meurent en couche en 2020, T1, en 2021, mais on a tellement cette image-là de... De l'accouchement, c'est dangereux. L'accouchement, ça peut tuer, en fait. C'est ça. On a peur de mourir quand on va accoucher.
Ouais, c'est fou, hein. Parce que quand on sait que la peur déclenche des sécrétions d'hormones qui entravent le bon déroulé d'un accouchement, c'est terrible de continuer à dire. C'est-à-dire qu'il y a ce double discours. C'est on peut mourir, mais il y a la médecine. Donc, faut vraiment s'en remettre. Et du coup, ben, dans ces cas-là, on nous demande même pas notre avis et on trouve que c'est normal puisque on est en train de savoir à notre place exactement ce qu'il faut faire et que sans la médecine on va crever.
Mais parce qu'on te ressort les chiffres, tu sais, de avant il y avait autant d'enfants qui mouraient dans les premières années de vie parce qu'il y avait pas cette médecine. Pareil pour le nombre de femmes qui mouraient en couche, mais c'était tellement d'un autre temps et donc on te met la médecine en tant que sauveur.
Alors ça, si je peux dire deux mots là-dessus, bon. Au XVIIIe siècle, c'est vrai, on mourait beaucoup en couche. Bon, l'espérance de vie des hommes était de 27 ans et celle des femmes était de 28 ans. Donc, on mourait beaucoup, tout court. Et c'est vrai que quoi qu'il arrive, un accouchement, c'est quand même une épreuve physique. Certains disent, comme un marathon. Enfin, c'est quand même, ça passe par le corps et il faut mieux être en bonne santé. Enfin, c'est une évidence, quoi. Et donc, évidemment, quand les femmes étaient malnutries, qu'elles avaient été atteintes de rachitisme et que donc elles avaient des déformations osseuses et que leur bassin était sous-développé, c'était plus difficile d'accoucher. Voilà, et on mourait beaucoup en couche, mais les matrones, pareil, après la chasse aux sorcières, c'était des matrones qui faisaient n'importe quoi parce qu'elles savaient pas ce qu'elles faisaient, qui étaient nommées juste par des curés parce qu'elles étaient bigotes. Enfin, tu vois, et là où on mourait le plus, c'était peut-être dans les hôpitaux, en fait. Pourquoi ? Parce que personne déjà voulait accoucher dans les hôpitaux, à part les femmes qui avaient nulle part où aller, donc des femmes de pauvres conditions. Et puis parce qu'on mourait beaucoup de la fièvre puerpérale. La fièvre puerpérale, c'est pour ça que c'est marrant qu'on pense que c'est la médecine qui a sauvé les femmes de leur mort en couche, parce que la fièvre puerpérale, elle était directement liée aux médecins qui ne se lavaient pas les mains, en fait. À l'époque, on n'avait pas compris qu'on transmettait des microbes par les mains sales, et donc ils faisaient des dissections, et puis après, ils allaient accoucher des femmes, ils mettaient les mains dedans, parce qu'ils ne connaissaient rien à la physiologie et tout, et ils leur inoculaient la fièvre puerpérale. On disait, oh là, ça, c'est à cause de l'air vicié, et on ouvrait les fenêtres. Et à partir du moment où on a compris qu'il fallait se laver les mains, et puis le premier médecin qui l'a dit, les gens ne le croyaient pas. C'était tellement... Il faut quand même se rendre compte qu'on a des biais cognitifs qui sont hyper puissants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une croyance qui est admise dans le milieu dans lequel on évolue, la société dans laquelle on évolue, c'est vachement compliqué de la remettre en question, quoi. Donc, on ne le croyait pas. On se lavait les mains, tu crois encore, que ça faire.
Alors qu'aujourd'hui, on se lave les mains quand même 15 fois par jour.
Et c'était de la médecine et c'était de la science. Sauf que c'est aussi une science, la physiologie, et qu'il n'y a aucune science qui avance sans remise en question, en fait. En fait, la médecine ou la science, on a l'impression que c'est des entités comme ça, au-dessus de tout le reste, qui ont une vérité absolue, alors que non, la médecine et la science, c'est incarné par des putains d'êtres humains comme toi, comme moi, ouais. Qui sont eux-mêmes englués dans une société avec une éducation, des jeux de pouvoir, enfin voilà. Et
ils vont juste à l'école un peu plus longtemps.
C'est ça. Non, mais on ne peut pas leur demander non plus d'être... D'ailleurs, on le voit bien avec la pandémie, hein. Ils ne sont pas d'accord. Hein. Moi, je trouve ça flippant parce que j'aimerais bien pouvoir m'en remettre tranquillement à quelqu'un. Mais je trouve ça plutôt sain, en fait, qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord et qu'il y ait des débats. Ouais.
Sur ton premier tome, t'es axé sur la grossesse. Les prochains tomes, ils vont être axés sur quoi, du coup ?
Alors, par facilité éditoriale, on a tendance à dire, bon, le premier tome, c'est la grossesse, le deuxième tome, c'est l'accouchement, et le troisième tome, c'est l'issue de couche. En fait, c'est pas du tout ça dans ma tête. Pour moi, c'est vraiment, le premier tome, c'est découvrir vos super-pouvoirs. Donc, j'explique pas tant la grossesse, je trouve, que le processus de déclenchement de l'accouchement, les contractions, d'où ça vient, ces contractions... Et dans quelles conditions se mettre pour être dans le meilleur état, dans quel état d'esprit être pour accoucher le plus facilement possible. Et le tome 2, c'est vraiment amplifier vos super-pouvoirs. Et là, je vais reparler de la grossesse, en fait, plus que dans le tome 1. C'est-à-dire que pour mettre vraiment toutes les chances de son côté pour avoir le meilleur accouchement possible, il y a aussi comment on vit la grossesse. C'est-à-dire être attentive aux petits signes, c'est-à-dire... Si jamais on a mal au dos et tout ça, c'est des trucs bêtes, mais il vaut mieux y faire attention. Déjà commencer à prendre du temps pour soi, tu vois, pour moi c'est vachement important, du temps pour s'écouter, écouter son corps et tout, faire un peu d'exercice, parce que, encore une fois, c'est quelque chose de physique en fait, une naissance. Donc on se prépare, il ne faut pas être une énorme sportive, pas besoin d'être une marathonienne pour faire un accouchement, hein. Mais voilà, c'est logique. Un peu en forme, voilà, pour prendre soin de son périnée et tout. Et puis aussi parce que le troisième trimestre de la grossesse, certains l'appellent le trimestre de l'ocytocine, c'est là que l'utérus va fleurir de tout plein de capteurs d'ocytocine qui vont ensuite, plus on prend du plaisir, plus on est détendu et on prend du plaisir dans le troisième trimestre de sa grossesse, plus on va être à même d'avoir de l'ocytocine qui se dégage le jour de l'accouchement. Et en plus de ça, parfois, on est déjà un peu dilaté, en fait, du jour J, parce que voilà, dans les derniers jours, le col a commencé à ramollir, etc. Donc, voilà. Le deuxième tome, c'est vraiment ça. C'est vraiment comment on va choisir son accompagnement en fonction de quels critères, qu'est-ce qui est possible en France. Comment les positions, comment choisir ses positions, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la respiration, parce qu'en fait... la sensation de la contraction quand elle arrive, si on se crispe dessus et qu'on se recroqueville dessus et qu'on serre les dents, en fait, ça aide pas du tout le travail à avancer et le col à se dilater. Donc, c'est des choses à savoir, quoi. Tout simplement, faire attention de pas se recroqueviller sur sa douleur, d'avoir la colonne étendue et la bouche.
Et de l'accueillir, en fait, finalement. Vraiment, de la laisser venir et de l'accueillir plutôt que d'essayer de la contrer.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les sensations de l'accouchement sont un guide. La douleur, elle ne veut pas du mal, en fait. La douleur, c'est un signal. La douleur est là pour nous aider, comme la peur, d'ailleurs. Hein. Ce sont des choses à écouter. Et plus on en a peur, moins on veut écouter, plus on veut les mettre sous le tapis, et plus elle risque d'être intense, parce qu'elle veut me dire « Écoute-moi, écoute-moi, j'ai quelque chose à se dire. » Donc, la douleur, c'est vraiment ça. Si je me coupe le doigt et que je ne le sens pas, ben, je risque de me trancher le doigt complètement, quoi. Et donc la douleur dans l'accouchement souvent induit des positions différentes quand on peut bouger, évidemment, quand on n'est pas accroché à un cathéter et à un monitoring et tout, et que si je suis inconfortable dans une telle position, je vais chercher la position la plus confortable, et souvent la position la plus confortable sera celle qui va aider le bébé à progresser dans le bassin, en fait. Ça, c'est des choses qui sont toutes bêtes mais qui sont vachement rassurantes aussi, je trouve.
Et l'accompagnant, le jour de l'accouchement, a un rôle à jouer, en fait, aussi. Et ça, je trouvais qu'on le voyait aussi un peu dans ton livre, parce que ça, on ne nous en parle pas. Par exemple, j'ai fait ma préparation à la naissance sans mon mec. Alors qu'en soi, c'est quand même quelque chose qu'on fait ensemble. Et c'est même recommandé, si on n'a pas de conjoint ou de conjointe, de se faire accompagner par quelqu'un de confiance ce jour-là, parce que c'est important, en fait.
En fait, on ne fait pas un bébé toute seule. C'est-à-dire que même quand on est femme célibataire, c'est important de s'entourer et de le comprendre très tôt, qu'il n'y a pas de honte ou une fierté à avoir. Enfin, je veux dire, moi, ma sage-femme pour mon premier bébé, elle a forcé les compagnons, les compagnes n'avaient pas, mais ça aurait été pareil, à venir à au moins deux cours de préparation à la naissance qui lui semblait, pour lesquels ça lui semblait important qu'il soit là. Et par exemple, celui pour les suites de couches. Parce que on se rend pas compte à quel point on a tendance à délaisser complètement les facteurs émotionnels, psychologiques, et comme si c'était. C'est assez récurrent hein, dans le monde de la santé en France. La santé mentale n'est pas très, très...
Bah, on le voit même d'ailleurs en ce moment, complètement. Même, tu vois, pendant le premier confinement, où les femmes, on leur demandait... Et encore, les règles n'étaient pas les mêmes dans toutes les maternités, où les femmes, on leur demandait d'aller accoucher seules. Et ça, c'était assez... moi, j'ai trouvé ça scandaleux que les conjoints, les deuxièmes parents puissent pas être là pour assister pour la naissance de leurs enfants et surtout pour les suites de couches. Enfin, je veux dire, ils devaient partir... Il y a des maternités où ils pouvaient assister à l'accouchement et ils devaient partir juste après. Et donc, laisser la maman seule avec le bébé pendant le séjour à la maternité, c'est quand même... C'est vraiment ne pas prendre en compte... La vraie difficulté de l'accouchement et de ce que ça implique vraiment, en fait.
C'est terrible. Et en plus, à l'heure où, en pleine pandémie, on peut comprendre qu'il y ait des aménagements qui soient faits par rapport aux habitudes. Celles qui ont été choisies, t'es complètement en dépit du bon sens. C'est-à-dire que si on veut vraiment limiter le nombre d'interactions sociales, tout comme on se confine avec notre famille, on pourrait très bien être suivi à ce moment-là par une seule sage-femme référente, et donc d'en voir qu'une seule qui soit là le jour de l'accouchement. Enfin, c'était l'occasion rêvée, justement, pour mettre en place un accompagnement un peu différent. Bon, évidemment, c'est dans la panique, c'est dans l'urgence et tout, donc c'est pas forcément rêvé, hein, c'est pas du tout.
Bah, y a pas assez de personnel pour le faire là-dedans.
Voilà, y a peut-être pas assez de personnel pour le faire, mais c'est-à-dire que là, toutes les contraintes étaient mises sur les femmes qui accouchent, qui sont. Les personnes les plus vulnérables dans l'affaire, quoi. Et je comprends après que quand on est sage-femme, on soit paniqué. Ça crée un contexte vraiment terrible pour les femmes qui. Bon, après, en effet, ça dépend des maternités, ça dépend des. Mais enfin, quand même, on voit quand même que la dernière roue du carrosse, vaut mieux pas trop être une femme, quand même.
Non, mais c'est ça, mais tellement, enfin. Et puis, c'est cette différence entre toutes les maternités, pour moi, c'était vraiment un non-sens, parce que ça montrait quand même clairement qu'il n'y avait pas de logique, tu vois, et qu'il n'y avait pas de connaissance, de la physiologie et de la réalité de la naissance, en fait, parce qu'autant, il y a des... pour le coup, moi, j'ai plusieurs copines qui ont accouché pendant le premier confinement et le début de cette pandémie où t'as eu plusieurs cas de figure où j'ai un couple d'amis où elles ont pu rester ensemble pendant tout le long. Donc, du début de l'accouchement jusqu'à la fin du séjour, fallait juste pas sortir, mais ça, en soi, c'est logique, en fait. Et d'autres qui ont, j'ai une autre copine qui a eu son conjoint avec elle et qui a dû partir 24 heures après. Donc, pourquoi 24 heures? Il est où le sens de ça? Enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, pourquoi tu peux transmettre le Covid pendant 24 heures, mais après 48 heures, étrange. Et d'autres pour qui, il n'y avait pas d'accompagnement possible, en fait. Et c'est vraiment dramatique, non seulement pour le lien parent-enfant, deuxième parent-enfant aussi, parce que ne pas voir son enfant naître, ça doit être quelque chose d'assez frustrant pour le deuxième parent aussi, de pas savoir ce qui arrive à ta compagne, de pas être là pour la soutenir, c'est quand même difficile. Et après, comment tu peux trouver ta place dans ta famille quand le début a été aussi chaotique, c'est compliqué quand même.
Ouais, c'est compliqué, c'est-à-dire que ouais, la naissance... donne quand même une couleur, même si c'est pas... Attention, je suis pas en train de dire « Ah, parce que vous avez eu une naissance un peu difficile, tout est foutu. » Mais enfin, ça donne quand même une couleur au début, à l'arrivée d'un bébé, quoi. Ça donne quand même... Moi, je me souviens qu'après mon premier enfant, je me sentais forte et habilitée à avoir ce bébé, alors que je n'étais pas plus qu'une autre maman, mais parce que j'avais vraiment eu l'impression qu'on était une équipe, quoi. Et moi, on l'avait fait ensemble, c'était incroyable, je baignais complètement dans mes hormones d'ocytocine, Et j'ai beaucoup, au-delà des livres que j'ai lus et des formations que j'ai faites et tout, j'ai aussi beaucoup écouté de témoignages, tu sais, du genre de youtubeuses par exemple, puisque les femmes, quand même, il y a ça maintenant, partagent beaucoup. Et je me souviens de beaucoup de femmes qui racontaient leur accouchement et qui disaient ce bébé, j'avais l'impression que c'était pas le mien, j'avais l'impression de l'avoir volé. Parce que c'est une forme de c'est pas réel quoi. On leur a tellement, elles ont tellement eu la sensation qu'elles savaient pas faire, qu'elles étaient pas compétentes, que voilà. Et puis on sait peu aussi que le simple fait d'accoucher dans ses baignées de ses propres hormones, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, ça facilite énormément de choses, ça facilite la connexion à son bébé dès le départ, et ça aide à mieux vivre le postpartum aussi.
Justement, c'est là-dessus que je voulais arriver. Est-ce que un accouchement pour lequel on est actrice améliore grandement la suite de couches, parce que tu vois, enfin là et là c'est mon expérience, mais enfin généralement c'est ça part de là, tu vois, moi j'ai mon postpartum, ça a été l'enfer sur terre, enfin c'était vraiment une grosse surprise, une grosse chute pour le coup. Je m'attendais tellement pas à ça, mais je pense que si tu prépares tellement ton accouchement et si t'en es vraiment acteur, forcément tu prépares l'après.
Voilà, il y a plusieurs choses dans cette question, c'est en effet, quand on commence à mettre le doigt sur ces sujets, ça ouvre une porte qui ouvre sur une porte qui ouvre sur une porte. Ces derniers temps, on entend pas mal parler. Alors, c'est pareil que toi tout à l'heure, tu me disais, je sais pas si c'est qu'en ce moment, on entend plus parler de physiologie de l'accouchement que quand j'ai accouché, ou si c'est parce que ben, quand on s'intéresse à un sujet, on a tendance à le trouver beaucoup plus visible. Et en plus, les algorithmes accélèrent ça, c'est-à-dire ça l'amplifie. Quand à partir du moment où on s'intéresse à un sujet, hop, Instagram nous propose que des trucs sur ce sujet, on a l'impression au bout d'un moment que tout le monde sait. Moi, des moments, je me dis, ça sert à rien que je fasse mon livre, tout le monde est au courant, quoi. J'arrive plus à savoir ce que la majorité des femmes savent ou ne savent pas, c'est très troublant. Mais en effet, le fait, en fait, si tu veux, moi, ce que ça m'a fait comme impression quand j'ai commencé à m'intéresser à la physiologie de l'accouchement, c'est que pour la première fois, je me suis rendu compte que ce qui existait dans les institutions n'était pas forcément le meilleur pour moi. Et alors que jusqu'à là, je m'étais pas vraiment, j'avais jamais remis vraiment ça en question. Tu vois, moi, j'ai mal à la tête, je prends un Doliprane, je vais chez le médecin, s'il me dit de prendre des antibiotiques, enfin voilà, c'était vraiment voilà dans ce truc-là. Et encore maintenant, d'ailleurs, sur plein de choses. Mais tu vois, le fait de me rendre compte qu'un système pouvait ne pas être bienveillant. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment sauté aux yeux. Je le savais confusément, mais là, ça m'a sauté aux yeux, vraiment, avec la naissance. Et à partir de ce moment-là, tu mets le doigt dans un truc et tu te dis « Ah, mais dans ces cas-là, pourquoi je ne me re-questionne pas sur le congé maternité, le congé paternité, la scolarisation, la mise en crèche, le mode de garde ?» Et en fait, pour moi, en tout cas, c'est peut-être différent chez chacun, mais avant d'avoir un enfant, c'est cool, ça va être ma vie avec le bonus d'un enfant. En gros, ce sera ma vie pareille. Et il y aura un enfant dedans. Et puis, en fait, l'arrivée de mon enfant a bouleversé beaucoup de choses. Ma relation avec mes parents, ma relation avec mon travail, enfin voilà. Et pour le postpartum, j'ai entendu dire pas mal ces derniers temps, oui, on est très préparé à l'accouchement et pas au postpartum. Je trouve que oui et non, parce qu'on nous prépare à l'accouchement avec beaucoup de fausses croyances aussi, quand même. Ça va, parfois, les préparations à l'accouchement, c'est juste vous dire à l'avance, bon, alors, vous serez dilaté à temps, on vous mettra dans la salle d'accouchement, vous serez dilaté à temps, on vous fera ça, après, on vous posera la péridurale. En fait, on nous informe vite fait de ce que le protocole indique, mais pas vraiment de ce qui se passe dans notre corps, quoi.
Ouais, et pas de ce qu'on va ressentir non plus, d'ailleurs.
Et le postpartum, c'est pareil. Le fait d'avoir un accouchement physiologique, ça a plusieurs conséquences sur le postpartum. C'est que, en général, déjà, il y a une étude qui a montré très récemment que compare en fait les femmes qui ont accouché avec péridurale, sans péridurale, ouais, et leur taux de satisfaction de leur accouchement. C'est-à-dire que on pourrait croire comme ça a priori que celles qui ont eu une péridurale sont plus satisfaites de leur accouchement, mais en grande majorité, elles le sont moins, en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de femmes qui accouchent sans péridurale et qui finalement ne le regrettent pas du tout et trouvent que leur accouchement s'est bien passé. A contrario, beaucoup de femmes qui ont accouché avec péridurale n'ont pas bien vécu leur accouchement. A priori, la péridurale est là, dans le discours ambiant, pour notre confort. Elle est surtout là pour le confort de la gestion, comme on disait tout à l'heure. Parce qu'avec une péridurale, il va y avoir plus d'extraction instrumentale, il va y avoir plus de périnée abîmée. Quand on pousse avec une péridurale, on ne pousse pas du tout de la même façon que quand on pousse sans. On pousse avec nos abdominaux grands droits et on a tendance à pousser nos organes vers le bas en même temps que le bébé, ce qui n'est pas du tout le cas quand on accouche sans péridurale. Donc, il y a beaucoup plus de problèmes ensuite de fuites urinaires, de périnées abîmées, en fait, tout simplement. Et tout ça, pour moi, sont à prendre en compte comme des souffrances de l'accouchement.
Mais, et puis surtout que ça dure longtemps. Là c'est l'expérience hein, qui parle, parce que tu vois, pour le coup, le périnée, si tu veux, ça c'est... Moi, mon périnée a été extrêmement, extrêmement abîmé par mon accouchement. Et en fait, c'est une souffrance... pas au terme de douleur, mais c'est une souffrance à long terme et au quotidien surtout. Et ça, on ne nous le dit pas. Ben moi, je sais que les 10 jours après mon accouchement, je ne pouvais pas me lever sans me faire pipi dessus. Je ne sentais plus quand j'avais envie de faire pipi, tu vois. Et ça, mais c'est... Enfin, personne... Enfin, on ne te dit pas que c'est lié à cet accouchement, en fait. On te dit, oui, c'est normal parce qu'il y a la poussée, parce que voilà, et tu as eu moins de chance parce que... ton périnée a vraiment pris cher, mais alors qu'en fait, la vraie réponse à ça, c'est on m'a demandé de faire des choses, moi je l'ai fait parce que je ne savais pas, on m'a demandé de pousser en... alors que mon bébé n'était pas descendu pour la faire descendre, et ça on n'aurait pas dû me demander, c'était juste une question de gain de temps parce qu'on partait sur un changement de garde.
Et en plus, ça ne fait pas gagner du temps, enfin, si le bébé n'est pas bas dans le bassin, même si on est dilaté complètement, il faut qu'il descende. Enfin, c'est pas le moment de... C'est incroyable qu'on prenne pas en compte ça. En fait, il y a des timings qui sont imposés par des protocoles, quoi. Et vraiment, certaines équipes qui paniquent si on n'est pas dans le timing qui est imposé seulement par le protocole, alors qu'il n'y a aucune raison vraiment inquiétante autre que le protocole a dit. C'est incroyable.
Mais c'est ça. Et pour le coup, en plus, c'est vraiment ça, parce que tu vois, à cette poussée-là, on m'a dit on le compte pas. Tu vois, genre, on commence pas à mettre le chronomètre, en gros, dans parce que c'est 20 minutes de poussée avant d'appeler un obstétricien pour intervenir. Et on m'a dit, non, on le compte pas. C'est vraiment juste pour la faire descendre parce que... Et en fait, le truc, c'est qu'il y avait... La physiologie, la façon... Mon accouchement n'était plus prioritaire. En fait, ce qui était prioritaire dans ce moment-là, c'est parce que, en fait, on avait fait le choix avec mon conjoint de pas connaître le sexe de notre bébé avant la naissance. Et c'était devenu un jeu avec les sages-femmes. Et c'est vrai que c'était chouette sur le moment. Mais en fait, elles changeaient de garde et elles avaient tellement envie de connaître le sexe de mon bébé pour connaître le prénom parce qu'on n'avait rien dit. Mais c'était ludique, c'était sur l'humour sur le moment T. Sauf qu'en fait, avec du recul, ben... il n'y avait pas de place pour ça, en fait, à ce moment-là. Ce n'était pas ça qui devait primer. C'était vraiment mon corps, mon bébé qui n'était pas encore descendu et qui prenait peut-être son temps. Et c'était ça qui primait plutôt que de connaître son prénom et son sexe, en fait. Mais parce qu'on met au centre de l'attention les besoins des mères, les besoins des bébés, et que tout est timé, en fait. D'ailleurs, on te le dit, quand tu allaites après, ensuite de couche, on te dit, ben, s'il n'a pas tété toutes les temps, c'est que peut-être il faut le complémenter. Alors qu'en fait, pas du tout.
Oui, c'est fou, ce truc avec les chiffres, quand même, on a un problème. Moi, je me souviens qu'on a tendance à faire beaucoup de rêves et de cauchemars quand on est future mère et quand on vient d'avoir un enfant. Il faut le savoir, on a beaucoup de rêves, et moi, c'était mon cas. Et pas très longtemps après la naissance de mon premier enfant, et pourtant, je n'étais pas dans un parcours comme classique et tout, on ne m'a pas dit... Moi, quand je suis arrivée à la maternité, ma sage-femme n'était pas encore là. Du coup, j'avais d'autres sages-femmes qui m'ont regardée et qui m'ont dit « Elle est à 6. Elle est à 6. Ou... » Et je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Ma sage-femme ne m'avait pas du tout parlé de cette note qu'il faut avoir de 10 sur 10. Et alors qu'en fait, et du coup, on fait vite une règle 3. On se dit « Alors, si j'en suis à 6, j'ai mis tant d'heures à être à 6. Alors... » Et ça fait marcher notre néocortex à fond. Et le néocortex empêche... le bon fonctionnement, rien que ça, c'est perturber la physiologie de la naissance. Donc finalement, elle avait raison, tu vois, ma sage-femme, elle m'avait jamais parlé. Et j'étais pas allée, alors pour le coup, j'étais pas encore allée lire ailleurs, ni quoi que ce soit, ni regarder YouTube, ni des blogs, ni rien du tout. Et donc quand la sage-femme que je connaissais pas disait « elle est à 6 », j'étais là, mais il y en a combien comme ça? De quoi de si quoi? Je savais pas du tout de quoi elle parlait, en fait. Tu vois. Et après la naissance, je me souviens qu'avec les histoires de pédiatres qui disent... il faut, alors il y a le poids du bébé, il y a le truc, il y a le périmètre crânien, il y a le machin. Et je me souviens d'avoir fait un cauchemar, donc ça m'arrive jamais dans ma vie de parler à haute voix pendant que je dors. Voilà, et là, mon compagnon était à côté de moi. J'ai fait un cauchemar où je me retrouvais à parler et toi à dire, mais c'est quoi le numéro? Il fallait absolument que je sache le numéro de quelque chose. Et je l'avais pas en tête et c'était terrible. Et on allait me prendre mon bébé si jamais je savais pas le numéro. Enfin, bref. Donc, tu vois, il y a un côté très anxiogène chez moi, en tout cas avec les chiffres, qui est peut-être rassurant chez d'autres femmes, hein, mais...
Ouais, mais alors tout est dicté autour de ces chiffres, parce que tu vois, on sépare aussi les bébés de leur maman à la naissance pour ces chiffres-là, pour mesurer, pour peser, alors qu'en soi, est-ce que c'est vraiment utile s'il n'y a pas de pathologie chez le bébé? Enfin, sauf en cas de prématurité peut-être, à la limite, j'en sais rien, et encore, je sais même pas.
C'est vraiment une jouissance des chiffres qui est très étrange, enfin, qui n'a pas lieu d'être.
Comme si c'était une performance.
Ouais, c'est ça, on aime bien. Mais ça ne va pas sans menuisant. Hein. Enfin, je veux dire, on compte nos likes, on compte nos pas, on compte nos calories,
Mais on compte tout. Même à l'école. Tu vois, cette semaine, sur Prenons un café, il y a un épisode qui est sorti. Tu vois, tous les premiers mardis du mois, je sors un épisode autour du monde où on part à l'étranger. Et cette semaine, c'était justement une maman qui s'est expatriée en Laponie suédoise. Et on parlait du système scolaire suédois. Et où, en fait, on t'apprend à être et pas à faire. Parce qu'on n'est pas dans la performance. Alors que nous, clairement, notre société est à fond dans la performance dans tous les domaines.
Ah oui, oui. Puis on en est malheureux, en fait. C'est des critères qui nous sont complètement extérieurs. Encore une fois, j'ai une amie qui a été championne du monde de VA, donc c'est de la pirogue tahitienne, et donc quand même une grande sportive. Et quand elle est arrivée au Pays Basque, elle en a fait et tout, mais elle m'a dit, mais moi ici, je prends pas le même plaisir, parce que les gens ont tout le matériel qui compte, la moyenne, leur vitesse moyenne, le combien de kilomètres ils ont fait, leur rythme cardiaque et tout. Et au lieu de profiter et de se mettre vraiment dans la transe de ramer, d'être sur l'océan, de sentir le mouvement des vagues et de pagayer en rythme, etc. Ils sont focalisés sur leur performance, sur leur... ils sont complètement à l'extérieur d'eux-mêmes, tu vois. Donc, ils se filment, ils voient à quelle vitesse ils habitent et tout. Et elle me dit, en fait, ils sont moins performants, finalement, parce qu'ils arrivent moins à sentir le courant, les choses qui sont vraiment de l'ordre de la sensation, et qui, même si elles sont chiffrées, bon, ça va te donner une info, mais ça te donne une info extérieure à toi. Et je trouve que c'est assez parlant aussi dans l'idée d'une expérience d'une naissance. C'est-à-dire que, ouais, c'est une info, la dilatée. On peut être dilatée à 10 et que le bébé soit très haut. Donc, ça ne veut pas dire que la poussée va être imminente. Au contraire, on peut être dilatée à 5 et que finalement, après, le reste, le col s'ouvre très vite. On peut avoir le col effacé, pas effacé. Enfin, et ça n'est une information que dans le cadre de moyenne, de statistiques. Protocole. Et en fait, je trouve ça très parlant de se dire que dès avant même de naître, le bébé est en retard et en avance, et enfin, sur la date de terme, sur le temps. Ah oui, souvent les parents disent, ah oui, ben, il a pris son temps, ou enfin, et c'est marrant ce truc de dès le début, ouais, d'être chiffré, d'être calibré, d'être connoté comme étant lent, comme étant rapide. Et je suis sûre que ça a une incidence après sur l'idée que tu es toi-même. Même en tant que bébé, tu vois, mon compagnon, il a appris, il croyait qu'il était prématuré, et il a appris dans la première grossesse qu'il ne l'était pas. Et il a cru toute sa vie qu'il était chétif et tout, parce qu'il était prématuré, donc ce qui n'est pas forcément en plus vraiment corrélé. Mais bon, il y a toutes les croyances, comme ça, des choses confuses, qu'on se trimballe toute sa vie.
Alors que c'était juste sa façon d'être, en fait, et que ça n'avait pas d'incidence, enfin, que ce n'était pas un lien sur une éventuelle performance de chuiner plus tôt.
Non, c'était se dire que dès le début, on se fait une image de son bébé, même de soi. Cette idée, j'ai pas réussi, j'ai réussi.
Mais alors ça aussi, tu vois, quand t'as un projet de naissance physio et qu'on dit j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout, mais c'est pas une performance.
On n'est pas seul, tu vois, il y a tout le contexte, l'accompagnement. On n'est pas seul, il y a toute l'histoire familiale. On se trimballe des choses dont on n'a même pas conscience, quoi.
Ouais, on sous-estime le transgénérationnel justement et de tout ce qu'on parce que l'accouchement c'est pas juste 9 mois, la grossesse c'est pas juste 9 mois, c'est 9 mois plus ce que tu toute ta vie en fait avant, et même avant, parce que c'est aussi la vie dans toi, dans l'utérus de ta propre mère. Enfin, c'est tout est lié en fait, et ça c'est passionnant. Mais moi je pourrais parler de ça pendant des heures. J'adore.
Ça il y a quelques années, j'aurais dit oh là là, c'est quoi ce truc de perché, et en fait maintenant je
ne me drogue pas, je vous assure.
C'est pas ce que tu veux dire, puis on le sait avec l'épigénétique, il y a plein de choses qu'on est à même de constater de manière scientifique maintenant.
La vie commence pas avec la naissance en fait, elle commence bien avant.
Donc c'est pour ça quand on dit j'ai réussi, j'ai pas réussi, moi je pense qu'on réussit à tous les coups, parce qu'on fait en fonction de là où, de ce que la vie nous a donné au moment où on est parti, et voilà. Pas forcément toutes les infos, pas forcément tout l'accompagnement. On a un corps qui est différent de l'autre et on n'en est pas responsable, quoi. C'est pas la méritocratie avec tout le monde pareil dès le départ et starting block 5-4-2-1. C'est bon, enfin, c'est difficile de se détacher de ça, je trouve.
Ouais, c'est difficile. Et tu vois, moi, ce que je retiendrai finalement de tout ça, de cet échange et de ce travail sur la naissance et de cette discussion, c'est que finalement, il est grand temps d'arrêter donc de penser la naissance, l'accouchement et tout, en fait, tout comme une performance, mais plutôt comme une expérience, et d'aller vivre les choses plutôt que de les compter. Parce que c'est ça, en fait. On vit pas. Enfin, moi, j'ai pas vécu mon accouchement. On est sur des chiffres tout le temps, sur la performance. Tu vois, la grossesse, c'est premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Au premier trimestre, t'es pas vraiment enceinte parce que tu peux pas vraiment le dire et on sait jamais ce qui peut arriver. Après, enfin, t'es rythmée par des chiffres, par des échographies à un temps T. Et c'est utile dans certains cas. Enfin, je veux dire, on nie pas du tout ça. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Enfin, ce sont des avancées extraordinaires qui nous permettent et qui quand même sont des moments assez chouettes quand tout va bien, les échographies. Oui. Mais donc ça, on va pas renier, mais ça reste quand même très, très statistique, très dans la moyenne. Alors qu'en fait, on sait que chaque femme est différente, que chaque accouchement est différent, que chaque bébé est différent, alors qu'on essaye de les faire rentrer dans une moyenne. Et ça c'est pas possible et c'est quelque chose qu'on comprend via ton livre et merci de l'avoir écrit parce qu'en fait en plus ce format BD le rend accessible je trouve parce que l'image permet la compréhension aussi. Quand tu n'aimes pas forcément lire ou quand tu te retrouves face à un pavé qui va t'expliquer ce que enfin et t'as pas envie en fait, t'as pas envie d'y aller alors que ton travail à toi est précis avec des termes vraiment scientifiques et c'est très factuel. Avec le côté ludique et divertissant. En tout cas, merci de faire ce travail-là parce que je pense que ça va aider à rendre la formation plus accessible au plus grand nombre et peut-être de sortir de ces prismes dans lesquels on est enfermé parfois par les algorithmes et tout ça et vraiment de le démocratiser au maximum.
En tout cas, c'était mon objectif. Et puis, pour conclure aussi, mon idée, c'est justement qu'il n'y a pas une façon de faire, mais que... Le savoir, c'est le pouvoir, en fait, et le fait d'être au courant, d'être informé, ça permet de choisir, ça permet de comprendre, du coup, ça permet de mieux vivre les choses. Et en fait, les informations ne sont pas si compliquées que ça à comprendre, en fait. Il y a des choses très, très simples qui peuvent vraiment complètement changer la vision qu'on aura de son accouchement. Et que, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y a une part de physiologie dans tout accouchement. C'est-à-dire, on a tendance à dire, alors accouchement naturel, j'ai tendance à pas trop l'utiliser parce que il y a des gens qui utilisent c'est un mot naturel, c'est un mot très beau. Il y a des gens qui l'utilisent pour tellement des conneries, ah les homos c'est pas naturel, je sais pas quoi, des conneries énormes auxquelles je veux pas être associée. Que j'ai tendance à, puis ça a tendance à connoter beaucoup de choses, voilà que j'ai pas envie de coller sur mon livre. J'utilise le mot naissance physiologique. La physiologie c'est la science de la vie, donc de ce qui fonctionne dans la vie, voilà, quand ça va bien. Et pour moi, toute grossesse, accouchement est physiologique, dans le sens où il y a une part de physiologie, dans le sens où tant qu'il y a de la vie, il y a de la physiologie. Donc même s'il y a un truc qui est déconnant et pour lequel on a besoin d'être plus accompagné médicalement, etc., connaître la physiologie, ça aide à accompagner quand même et ce qui va bien. Parce qu'il y a toujours une part qui va bien quand on est en vie, il y a toujours une part qui va bien. Donc savoir comment l'encourager, cette part qui va bien, je trouve ça vachement plus positif que de connaître tous les trucs qui pourraient aller mal et se focaliser dessus et prévenir. Mais ça, c'est, pour moi, c'est ça. C'est donner le rôle aux médecins qui restent dans leur rôle et nous connaître la physiologie pour pouvoir l'encourager.
Ouais, voilà. Parce que les médecins ont tendance justement à entraver cette physiologie alors que... Mais elle est toujours là, elle n'est pas annulée, elle est juste entravée. Mais c'est vrai qu'elle reste toujours là, quoi, mine de rien.
Non, mais c'est ça, c'est qu'en fait, c'est logique que quand on a passé tous ces études à regarder ce qui pouvait aller mal, on se focalise dessus. Voilà, il faut vraiment mettre toujours en balance. Sinon, il y a des parties qui prennent le dessus sur d'autres, et voilà.
Merci beaucoup, Lucille. Si on veut suivre ton travail, par où ça se passe? Dis-nous tout.
Le plus simple, c'est de me suivre sur Instagram, c'est peut-être le plus simple. Et puis s'abonner à ma newsletter, c'est là où on a un bonus plus conséquent, disons.
Ok, super. Tu peux nous rappeler juste le nom de ton compte Instagram?
Lucille Gomez.
Et ben voilà. Ben, merci beaucoup, Lucille. C'était un très chouette échange. J'ai adoré passer ce moment avec toi. Et puis, à bientôt.
Merci à toi, à bientôt.
Merci encore à Lucille Gomez pour son travail, le partage de son savoir et son livre que je te recommande vivement d'acheter, La naissance en BD, découvrez vos super pouvoirs. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que l'épisode t'a plu ou au moins intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas de lui mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes. C'est une aide précieuse pour la mise en avant du podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Sophie et Nadia qui soutiennent Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Retourne un café.
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus.